En tout cas, je vous salue bien chaleureusement à mon tour. Et on démarre aujourd'hui en fait une nouvelle série de messages sur 12 textes bibliques successifs qui ont tous un rapport avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. On va consacrer 12 dimanches à 12 textes bibliques différents qui ont tous un rapport avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va lire dans quelques instants dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, les tout premiers versets. Mais d'abord, avant de faire cette lecture, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire, mais si seulement Dieu se manifestait à moi, si seulement il me montrait sa présence ou sa puissance, ça ferait tellement de bien à ma foi? Pour certains d'entre vous, ça vous aiderait peut-être même à avoir la foi. Eh bien, écoutez bien, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, parce que justement, le but du texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier, c'est justement de faire en sorte que vous puissiez voir la présence et la puissance de Dieu dans votre vie chaque jour. À partir d'aujourd'hui, bien sûr, si vous écoutez bien la prédication, vous devriez pouvoir, à partir d'aujourd'hui, arrêter de vous plaindre que Dieu vous semble absent ou lointain ou inactif, pour ne pas dire carrément oisif, et vous allez au contraire, à partir d'aujourd'hui, vivre dans l'émerveillement et la gratitude devant le bien que Dieu fait puissamment sous vos yeux chaque jour. Ça vous tente? Mais pour que ça puisse se réaliser, il va falloir laisser ce texte qu'on va lire informer notre façon de voir le monde. Je le disais tout à l'heure, ce texte qu'on va lire, c'est le tout début de la Bible. Les trois premiers versets de toute la Bible. Et dans ce passage, l'auteur qui est Moïse, le grand prophète et conducteur d'Israël, qui a vécu à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ, Moïse, dans ce texte, veut en effet structurer la vision du monde de ses lecteurs, de ses destinataires, pour qu'ils ne succombent pas à une vision du monde qui serait celle des peuples environnants à cette époque-là, mais qui serait une vision du monde erronée, ce qui aurait pour effet de nuire à leur connaissance de Dieu, à ses lecteurs, qui sont les Israélites, et à leur marche avec Dieu. Et à notre tour, nous, aujourd'hui, en 2017, à nous qui aimerions que Dieu nous montre sa présence et sa puissance pour que nous soyons aussi fortifiés dans notre foi, eh bien, à nous, ce texte nous dit, en quelque sorte, eh bien, écoute Alex, il faut que tu commences par voir le monde dans lequel tu vis différemment. Non pas comme les gens autour de toi prétendent qu'il est, ce monde, mais comme il est vraiment, si l'on en croit, la parole de celui qui l'a créé, ce monde. Et comment les gens autour de nous voient-ils le monde aujourd'hui? Ils voient le monde comme un monde imprévisible, un monde soumis aux aléas de la nature et aux caprices des hommes, un monde instable et dangereux, un monde indépendant de Dieu, si du moins il existe Dieu, et s'il existe, il a dû se retirer dans un coin reculé de l'univers. Voilà comment beaucoup de gens voient le monde aujourd'hui. Peut-être que c'est votre cas, en partie, peut-être que c'est un peu comme ça que vous voyez le monde dans lequel vous existez. Mais dans ce texte, Moïse veut corriger cette interprétation du monde en quelque sorte, et en quelques phrases en fait, quelques phrases, vous allez le voir, Moïse va nous rappeler comment le monde est apparu, et il va attirer notre attention, sur une réalité particulière et absolument fondamentale, c'est que Dieu, qui est le créateur de tout ce qui existe à part lui-même, Dieu qui est votre créateur et le créateur de tout ce qui vous entoure, ce Dieu-là, Dieu créateur, n'est pas un Dieu distant ou oisif ou inactif, mais Dieu est impliqué par son esprit au plus près de sa création et pour le bien de sa création. Et c'est donc cette réalité-là, liée à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit, qui va nous permettre aujourd'hui de reconnaître et d'admirer la présence et la puissance de Dieu dans notre vie chaque jour. Vous êtes prêts? Lisons le début de la Bible, livre de la Genèse, donc, voilà, si vous ne savez pas où c'est au début, en toute logique, de votre Bible, et on va lire les trois premiers versets du premier chapitre. C'est ici la parole infaillible de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Nous arrêtons ici cette lecture. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir ce soir et la liberté que nous avons de pouvoir ouvrir la Bible et la lire et la méditer tous ensemble. Nous confessons que cette Bible, ces textes sont l'Écriture sainte, inspirée par toi, ils sont infaillibles. Et nous te prions maintenant, Seigneur, de bien vouloir prendre cette parole et de l'appliquer à notre cœur et à notre vie, pour que sous l'effet de ton Saint-Esprit, nous soyons transformés, cela pour notre bien, et surtout pour ta gloire. Amen. Dieu est impliqué par son esprit au plus près de sa création, et cela pour le bien de sa création. Je crois que c'est toute la leçon de ce court passage. Mais la première chose que Moïse veut nous faire comprendre, c'est que quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde qui avait besoin de lui. Moïse affirme très clairement, dès la première phrase, c'est la première phrase de toute la Bible, je le répète, il affirme que Dieu est l'auteur de toute réalité créée, c'est-à-dire de toute réalité à part lui-même, puisque Dieu n'a pas été créé, puisqu'il est éternel de par sa nature en tant que Dieu. Et donc à part Dieu, toute réalité qui existe a été créée par lui. Et c'est très clair. Mais juste après, verset 2, Moïse attire notre attention sur quelque chose qui semble être un problème. Il dit « la terre était informe et vide ». En hébreu, cette expression a une connotation négative. C'est une expression d'ailleurs plutôt rare dans l'Ancien Testament, mais quand on la trouve, elle a une connotation clairement négative. À cela s'ajoute le fait que, d'après Moïse, il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce qu'on doit comprendre ici, quand on arrive à la moitié du verset 2, c'est que dans cet état primitif, le monde est un lieu en fait hostile, inhospitalier, un monde chaotique en quelque sorte. Il est littéralement sans forme et sans contenu, hein, informe et vide, dit Moïse. Il manque en fait tout ce qui viendra dans la suite du passage qu'on n'a pas lu, mais que la plupart d'entre nous connaissons bien, à savoir les formes que Dieu va donner à cette terre, ou les structures que sont par exemple le jour et la nuit, le ciel et l'eau, la terre ferme, etc. Et ensuite, non seulement les structures de ce monde, mais ce qui va remplir ces structures, le contenu de ces formes, à savoir les astres, le soleil, la lune, les êtres vivants dans l'air, les êtres vivants dans l'eau et les êtres vivants sur la terre ferme. Alors je ne vais pas essayer d'entrer dans le débat qui existe, il faut le savoir, dont le but est d'harmoniser cette description de la terre, en tout cas à l'état primitif, avec les différentes hypothèses de la recherche scientifique en rapport avec la chronologie de l'univers, je ne vais pas rentrer dedans, tout simplement parce que ce n'est pas le but du texte ici. Tout ce que Moïse veut nous faire comprendre, et dès le deuxième verset de la Bible, c'est que Dieu n'a pas créé un monde qui se suffisait à lui-même, il a créé un monde qui avait besoin de lui. Il y a quelques années, l'entreprise Intel, qui fabrique tous vos microprocesseurs dans tous vos ordinateurs, pratiquement, l'entreprise Intel a lancé un concours destiné à des étudiants ingénieurs. Et à ce concours se sont inscrits des étudiants de l'école polytechnique de Madrid qui ont présenté au jury un ordinateur portable qui avait un léger problème, puisque cet ordinateur n'avait ni batterie, ni prise électrique pour le brancher sur le secteur. On pouvait appuyer tant qu'on voulait sur le bouton on, rien ne se passait, l'affichage restait informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'écran. Pourtant, ces étudiants ont remporté le concours organisé par Intel. Pourquoi ? Parce que cet ordinateur était relié à une dynamo et à un pédalier. Il fallait que quelqu'un s'asseye sur la chaise et se mette à pédaler pour que l'ordinateur puisse fonctionner, vous voyez. Et le but du concours, c'était en effet d'inventer des moyens d'alimentation d'ordinateurs qui ont recours à des énergies renouvelables. Voilà pourquoi ils ont gagné. En tout cas, de façon un peu similaire dans le texte qu'on a lu, Moïse nous montre aussi que Dieu a créé un monde qui avait besoin de lui pour fonctionner. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre avec une batterie bien chargée, puis Dieu y serait parti, et puis il aurait laissé le monde tourner tout seul. C'est bon. En fait, on aurait pu s'arrêter à la fin du premier verset, si ça avait été le cas, tout le reste était superflu. Dieu n'est pas ce grand horloger qui aurait bien conçu et bien assemblé tous les mécanismes de son horloge, et qui ensuite aurait bien remonté la pendule, et qui maintenant laisserait sa création se gérer toute seule. Non, ici, que nous dit le texte ? Le texte nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, et tiens, aux surprises, la terre est informe et vide, elle n'a pas de contenu, elle est sans lumière. Par conséquent, il était impossible d'arriver au milieu du deuxième verset, il était impossible que la terre se gère et s'organise et se remplisse et s'alimente toute seule. Impossible. Dieu a créé un monde qui avait besoin de lui. Et donc Moïse, ici, il commence par souligner non seulement que Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il dépasse infiniment le monde, puisque, bon, c'est logique, il est le créateur souverain de ce monde, il a fait naître le monde du néant. Donc non seulement Dieu est transcendant, mais Moïse souligne aussi qu'il faut que Dieu soit immanent, c'est-à-dire qu'il soit proche de sa création, impliqué dans sa création, pour que sa création puisse bien fonctionner. Sans quoi, tout ce qu'on aurait aujourd'hui, ce serait cette terre informe et vide et ténébreuse. Vous comprenez ? Et encore, on ne l'aurait pas, on ne pourrait pas dire qu'on l'aurait, puisque nous, on ne serait même pas là pour le constater. Puisque la terre serait informe et vide, vous avez compris ? Donc il n'y a personne dessus. Un commentateur biblique compare la situation de la terre dans ce passage à la fameuse vallée des ossements desséchés dont parle un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel. Certains d'entre vous connaissez un peu ce passage qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 37, où Dieu montre à son prophète une vallée remplie d'os. Et ils sont tous desséchés, il n'y a pas de vie dans cette vallée. C'est aride, c'est hostile, c'est inhospitalier. C'est chaotique. Et Dieu dit à son prophète, dans ce passage, il dit, ces os, pluriel d'os, hein, pas les os comme dans la Genèse, ces ossements, pourront-ils revivre ? Et le prophète répond, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais, s'ils peuvent revivre. Mais pour ce qui le concerne, c'est impossible. Et ce qu'on découvre ensuite dans cette histoire, c'est que c'est par la présence agissante de l'Esprit de Dieu que ces eaux vont reprendre vie et devenir une foule de gens vivants. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Mais de la même façon dans le texte qui nous intéresse ici, quelle est la réponse à cette terre informe, vide, ténébreuse, chaotique, hostile, inhospitalière? Quelle est la réponse? Eh bien justement, verset 2 toujours, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et ce que Moïse veut nous faire comprendre ici, dans un deuxième temps, c'est que c'est par son esprit que Dieu est présent et actif de manière bénéfique dans le monde. Alors, il faut bien noter que dans cette description de la terre à l'état primitif, ici, dans Genèse chapitre 1, verset 2, dans cette description-là, il n'y a que de l'eau sur toute la surface de la planète, d'où la mention de l'abîme et celle des eaux. L'esprit qui plane au-dessus des eaux, c'est parce qu'il faut se représenter cette terre entièrement recouverte d'eau. Mais ce qui doit nous surprendre et nous émerveiller, ce n'est pas la présence de l'eau sur la terre. C'est plutôt la présence de Dieu sur la terre. Voilà une idée complètement hallucinante, l'idée que le Créateur Tout-Puissant soit présent et actif dans sa création. Par son esprit, il plane, il est là, sur la planète, il plane au-dessus des eaux, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? Ce verbe est peut-être traduit de façon différente dans votre version de la Bible. Il plane ou bien il se meut, il tournoie, il voltige au-dessus des eaux. C'est un verbe très rare dans l'Ancien Testament. Et au seul autre endroit où il apparaît sous la plume de Moïse, ce verbe désigne l'action d'un aigle qui voltige au-dessus de son nid pour éveiller et stimuler ses petits. Et dans le contexte de ce passage qu'on trouve dans le Deutéronome, un autre livre de Moïse, eh bien, c'est une métaphore, là, à cet endroit-là, qui décrit l'action bienveillante de Dieu en faveur de son peuple pour le faire sortir d'Égypte et le faire monter dans la terre promise. Dans ce passage, Dieu est donc comparé à cet aigle qui voltige, qui plane au-dessus du nid pour éveiller et stimuler ses petits et les prendre avec lui. Vous voyez que c'est une action très intime et très positive qui est décrite ici. Hein. Il y a une connotation très positive qui est, en contraste avec la description plutôt négative de la terre. L'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, c'est Dieu qui garde sa création, qui la soigne, qui s'occupe d'elle et qui produit sur sa création et en elle un effet bénéfique. C'est le créateur de l'ordinateur à pédales, en quelque sorte, qui exerce sa puissance sur les pédales pour alimenter l'appareil. C'est ça que fait l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu n'a pas créé un monde qu'il a ensuite abandonné et livré aux caprices de la nature ou confié à la gestion chaotique d'une multitude d'autres dieux prétendus qui se disputent pour en avoir le contrôle. Et ça, c'était plutôt dans la vision du monde des peuples de l'époque, qui étaient les peuples environnants du peuple d'Israël à cette époque-là, cette idée que les dieux se font la guerre, se disputent le contrôle du monde. Et on est un peu livré à leurs caprices, livré à ces aléas. Qui c'est qui va remporter? On ne sait pas, on verra bien. Puis on se ralliera au plus fort, on ne sait pas. Non, ce que le texte nous enseigne ici, c'est que le Dieu unique, souverain et transcendant, le créateur du monde, est aussi le souverain gestionnaire, nourrisseur et préservateur du monde. Et c'est par son esprit que Dieu est ainsi présent et actif de manière bénéfique dans le monde. C'est par son esprit. Le mot esprit en hébreu, ça veut aussi dire le souffle, donc on pourrait traduire le souffle de Dieu. Alors vous n'allez peut-être pas voir le rapport tout de suite, mais mes enfants aiment bien jouer au baby-foot. Et ils savent bien que quand on joue au baby-foot, comme vous le savez si vous avez déjà joué au baby-foot, il y a parfois des moments où la balle se retrouve coincée ou immobilisée à un endroit où aucune des petites figurines qui représentent les joueurs ne peut l'atteindre, vous savez. C'est un peu énervant quand ça arrive. Problème, ce serait perçu comme de la tricherie de toucher la balle avec ses doigts. Donc qu'est-ce qu'on fait? On souffle. Hein, Étienne, c'est ça qu'on fait? On souffle dessus. Mais comme on est quand même un petit peu malicieux, on souffle de telle façon à faire aller la balle en direction d'un de nos joueurs, n'est-ce pas, pour pouvoir récupérer la balle et reprendre l'action. Ah, mais j'ai pas triché, j'ai pas touché la balle. N'est-ce pas? Certes. Certes, mais en agissant par ton souffle, n'est-ce pas, c'est quand même toi qui agis. C'est quand même toi qui agis. Ton souffle, sur le terrain de baby-foot, c'est ta présence personnelle, en fait. C'est ton ingérence personnelle sur le terrain. De la même façon, il nous faut comprendre ici que le souffle de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, planant au-dessus des eaux, c'est la présence personnelle, c'est en quelque sorte l'ingérence personnelle de Dieu sur la terre. Bien sûr, on ne peut pas déduire toute la doctrine de la Trinité de ce seul passage. Hein. La doctrine de la Trinité étant cette doctrine chrétienne essentielle d'après laquelle il y a un seul Dieu, mais qui existe éternellement en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu qui existe en trois personnes. Non pas trois dieux, trois personnes qui sont toutes pleinement Dieu, qui n'ont qu'une seule et unique substance en tant que Dieu, mais qui existent comme trois personne. Alors on ne peut pas déduire cette doctrine de ce seul verset, bien évidemment. Mais on peut au moins affirmer ceci, c'est que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas juste la puissance ou la force de Dieu agissant dans le monde. C'est plus que ça. C'est vraiment la présence personnelle de Dieu. Et c'est l'action personnelle de Dieu dans le monde. Et ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Et ce que ça voulait dire pour les Israélites qui découvrent ce texte, que Moïse leur enseigne, que Moïse écrit ici dans la Torah, ce qu'ils découvrent et ce que nous découvrons est extraordinaire. Ça veut dire que nous vivons dans un monde intimement relié à Dieu. Dieu n'est pas distant, mais il est présent. Il est impliqué dans le monde, par son Esprit, par l'Esprit Saint. Dieu est à la fois transcendant, il nous dépasse complètement, mais il est aussi immanent. Il est proche de nous, il est présent dans le monde. Dans le catéchisme de Westminster pour jeunes enfants, une des questions c'est « Où est Dieu ?» Et la réponse, je ne sais pas si l'un de mes enfants s'en souvient, il est où Dieu ? Où est Dieu ? Partout, exactement. Partout. Il est présent au milieu de nous. Il est dehors dans la cour. Il est dans toutes les rues de Lyon. Il est dans toute la création, dans tout l'univers, dans tout le cosmos. Il est présent dans sa création. Il n'est pas séparé, il n'est pas distant, il n'est pas lointain. Et c'est en ayant établi cette vérité fondamentale que Moïse va poursuivre en commençant à nous montrer ce que Dieu fait dans le monde. Il a établi qu'il était présent, que sa présence était bénéfique, mais que fait-il ? Et ce qu'il veut nous faire comprendre ici, troisièmement et dernièrement, en tout cas pour aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit, par lequel Dieu habite notre monde, est incroyablement puissant. Le Saint-Esprit, par lequel Dieu habite notre monde, est incroyablement puissant. Alors au verset 3, Moïse commence maintenant à raconter la façon dont Dieu a structuré ce monde informe et comment il a rempli ce monde vide. Et la première chose qu'il fait, verset 3, c'est qu'il met la lumière dans les ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui est sous-entendu ici, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais attirer votre attention, c'est que l'Esprit de Dieu est pleinement et puissamment impliqué dans ce processus et dans tout ce qui va suivre, en fait, dans les versets suivants de ce chapitre de la Genèse. Le verset 3 présuppose le verset 2, on est d'accord ? Et il a déjà établi que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et donc, par nécessité, il est pleinement et puissamment impliqué dans tout le processus qui va suivre, qui va consister à mettre de l'ordre dans cette terre qui était sans forme, informe, et qui a consisté à remplir cette terre qui était vide. Nous avons ici le début d'une description de ce que Dieu fait dans sa création, sous l'effet de sa parole et par la puissance agissante de son esprit, qui est, je le rappelle, la présence personnelle de Dieu dans le monde. Dieu a créé et agencé le monde par sa parole et par son esprit. C'est ce que dit le psalmiste, psaume 33, verset 6. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Grâce à l'éclairage du Nouveau Testament, on peut comprendre mieux aujourd'hui, bien sûr, que les trois personnes de la Trinité sont pleinement impliquées dans cette œuvre de création. Le Père, par ses décrets éternels, le Fils, qui est appelé la parole de Dieu et la lumière du monde, dans l'Évangile selon Jean, et puis l'Esprit Saint qui est le souffle de Dieu. Voilà, telle est la puissance du Saint-Esprit, Dieu créateur, que Moïse nous fait considérer ici en particulier. Le Saint-Esprit dont la puissance est manifeste dans la création du monde et jusque dans la création de l'homme, dont il n'a pas été question ici, mais dont il sera question plus tard dans ce passage, comme on le voit d'ailleurs dans le livre de Job, un autre livre de l'Ancien Testament, où il est dit ceci, « L'Esprit de Dieu m'a formé, et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. » Donc vous commencez à voir pourquoi je disais que Moïse veut vraiment qu'on change le regard qu'on a sur le monde autour de nous, sur le monde dans lequel on vit. Vous comprenez? C'est un peu comme dans le film Le Truman Show. Ceux qui me connaissent savent que c'est un de mes films préférés. Où on a quelqu'un, j'ai peut-être déjà cité, peut-être pas qu'une fois, dans une prédication. On a quelqu'un dans ce film qui vit une vie relativement ordinaire sans savoir qu'il est en fait le personnage principal d'une télé-réalité et que tout ce qui se passe autour de lui est une vaste mise en scène où même la météo et le passage des jours sont contrôlés par quelqu'un dans une régie qui est assis derrière un panneau de contrôle. Le soleil se lève le matin et notre héros n'y pense même pas. Les saisons se succèdent et il n'y voit rien d'extraordinaire. Des fois il pleut, des fois il fait beau, des fois il y a du vent, des nuages, et alors? Et alors? Normal. Mais un jour, il découvre l'envers du décor, vous voyez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, sa vision du monde est bouleversée. Elle est bouleversée, ça lui arrive d'ailleurs quand il est adulte, donc il a vécu toute sa vie jusque-là, en n'imaginant pas quelle était la réalité. Alors bien sûr, dans le film, si vous l'avez vu, vous savez que le personnage qui contrôle ce monde artificiel, c'est plutôt quelqu'un de mégalo, un peu déséquilibré, et Dieu n'est pas du tout comme ça. Mais quand même, on peut faire un rapprochement avec notre situation à nous aujourd'hui, où nous aussi, nous vivons dans un monde où il y a plein de choses qui se passent tout le temps, et auxquelles, en fait, on n'accorde pas tant d'attention que ça, n'est-ce pas? Et pourtant, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis derrière un panneau de contrôle. Et ce n'est pas un savant fou, ce n'est pas un mégalomane complètement illuminé, ce n'est pas un dictateur cruel, ce n'est pas le maître des marionnettes, pour citer une chanson connue de Metallica, ce qui aurait plu à Jonah, mais il n'est pas là pour apprécier. Mais c'est Dieu qui est assis aux commandes et qui contrôle, soutient, préserve, vivifie, pilote et nourrit personnellement sa création par l'action puissante de son Saint-Esprit. Et c'est ça qui doit changer dans notre vision du monde. Si le monde dans lequel on vit fonctionne, s'il fonctionne, c'est parce que Dieu le fait fonctionner par son esprit. S'il y a la vie dans notre monde, s'il y a de l'ordre dans la nature, s'il y a même une forme de stabilité dans l'univers, si Christophe a un travail en tant que chercheur en physique, c'est parce que Dieu maintient tout cela par l'action puissante de son esprit. C'est lui qui maintient l'ordre dans la nature, qui maintient la stabilité dans l'univers. Si le soleil se lève le matin et se couche le soir, si les saisons se succèdent, si le vent souffle, si la pluie ou la grêle ou la neige tombent, si la végétation pousse, si les animaux respirent et se nourrissent, si la terre tourne sur elle-même et si elle tourne autour du soleil sans dévier de son orbite, et si moi et vous aussi, on peut marcher et respirer et dormir et manger et digérer et produire des globules blancs pour guérir de nos maladies, c'est parce que Dieu s'occupe puissamment et efficacement de sa création par son esprit, par l'Esprit Saint. Et c'est ce qui fait dire au psalmiste, psaume 104, d'ailleurs le psaume 104, il vaudrait le coup d'être lu en entier juste maintenant, là, tout de suite, mais bon, on n'a pas le temps. Mais le psalmiste dit par exemple, « Tu envoies ton esprit, les animaux sont créés, et tu renouvelles la face du sol. » Ou encore, dans Job, chapitre 34, là aussi il y a des chapitres qu'il faudrait lire en entier, hein, concernant le rapport entre Dieu et le monde, mais dans Job, chapitre 34, versets 14 et 15, « Si le Tout-Puissant ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Toute chair périrait en même temps, et l'homme retournerait dans la poussière. » Mais voici surtout en quoi cette réalité peut nous encourager. C'est que Dieu, qui est présent et actif dans notre monde par le Saint-Esprit, Dieu qui est capable de déployer une telle puissance par le Saint-Esprit au profit de tout l'univers, à plus forte raison, il peut déployer cette même puissance par le même Saint-Esprit dans notre vie. Le même Saint-Esprit, Dieu créateur, qui donne la vie aux animaux, ne croyez-vous pas qu'il soit capable et même disposé à donner la vie à notre âme, c'est-à-dire à régénérer notre cœur et à nous donner l'amour de Dieu et à nous faire vivre pour lui. Le même Saint-Esprit, Dieu créateur, qui préserve et nourrit sa création et qui fait fonctionner l'univers. Ne croyez-vous pas qu'il peut, et même qu'il veut, vous aider dans votre marche chrétienne, dans votre lutte contre le péché, dans vos efforts pour mieux connaître Dieu et dans votre témoignage auprès des gens de votre entourage. La Bible nous dit que par nature, parce que nous avons cherché à vivre indépendamment de Dieu, ce qui était pure folie puisque le cosmos lui-même ne peut pas subsister indépendamment de Dieu, mais nous avons quand même cherché à vivre indépendamment de Dieu. Du coup, notre vie est devenue chaotique. Nous avons reproduit un territoire informe et vide, celui de notre vie. Et il était couvert de ténèbres, parce que nous avons été séparés de Dieu par notre propre faute, par notre péché. Mais vous voyez, ce Saint-Esprit qui agit si puissamment dans le monde, il peut tout aussi puissamment raviver notre cœur. Et il fait cela en faisant quelque chose de très précis. Il le fait en nous montrant Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ ? Parce que c'est Jésus qui, par sa venue, sa vie, sa mort et sa résurrection, nous présente le salut de Dieu. C'est lui qui nous présente le salut de Dieu en vertu de qui il est et de ce qu'il a fait. Il a souffert à notre place les conséquences pénales de nos péchés pour nous en délivrer, pour nous en décharger en quelque sorte. Et il est ressuscité en vainqueur. Et maintenant, par la foi en Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et notre vie peut de nouveau trouver une structure conforme au projet de Dieu et être rempli de ce qui est conforme également au projet de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit au sujet des croyants, il dit ceci dans une de ses lettres dans le Nouveau Testament, il dit « Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Il nous montre Christ. Ça, c'est l'œuvre puissante du Saint-Esprit quand il ravive les cœurs, quand il réveille notre âme, quand il nous donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit, donc, avec la même puissance que celle qu'il déploie pour piloter l'univers, eh bien, il peut vivifier notre âme. Il peut nous régénérer et nous sceller pour Dieu, en Christ, et avec la même puissance que celle qu'il a déployée et qu'il déploie depuis la fondation du monde. Et avec cette même puissance, au dernier jour, il nous ressuscitera pour que nous vivions éternellement avec Dieu. Et il nous donnera un corps incorruptible et glorieux d'après la Bible. Donc, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire « Si seulement Dieu me montrait sa présence ou sa puissance, ça ferait vraiment du bien à ma foi ?» Eh bien, j'espère que vous avez compris à travers ce texte que tout autour de nous et chaque jour, nous avons la manifestation spectaculaire de la présence et de la puissance de Dieu. Juste là, sous nos yeux. Et moi, je vous regarde et je l'ai sous mes yeux. La manifestation spectaculaire, si, de la présence et de la puissance de Dieu. Nous pouvons arrêter de nous plaindre que Dieu nous semble absent ou lointain ou inactif. Au lieu de ça, nous pouvons commencer à vivre dans l'émerveillement et la gratitude devant tout ce que Dieu fait si puissamment dans le monde qui nous entoure par le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu est impliqué par le Saint-Esprit au plus près de sa création et pour le bien de sa création. Et ce qu'il fait si puissamment, c'est pas juste pour la nature ou pour les gens autour de nous. Il agit tout aussi puissamment par son esprit dans notre cœur et dans notre vie, non seulement pour nous faire subsister corporellement et matériellement, mais aussi pour nous faire vivre spirituellement et pour nous fortifier dans notre vocation chrétienne et pour nous garder spirituellement en parfaite sécurité jusqu'à la fin. Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de nous montrer à travers ce texte que tu n'es pas le Dieu lointain et inactif que l'on s'imagine parfois. Tu es bien au contraire un Dieu proche, présent dans ta création et tu agis de manière puissante pour le bien de ta création, pour notre bien. Cette puissance, tu es disposé à la déployer, toujours par ton Esprit Saint, pour nous donner non seulement la vie sur terre, la vie quotidienne, mais aussi la vie éternelle. Tu es capable, par ton esprit, de régénérer les cœurs. Et tu nous scelles comme étant tes enfants pour toujours. Et nous te prions de nous aider, Seigneur, chaque jour, à considérer toutes ces réalités-là et à marcher dans l'émerveillement et la gratitude. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.